Celtique.
Bonjour, le rocher de Sustaine, mémoire 1942-1982. C'est le titre du livre qui va être au cœur de notre conversation avec son auteur Jean-Noël Jeannonet. Grâce à lui, 40 ans d'histoire du monde politique et intellectuel en France vont nous contempler en quelque sorte. Historien, ancien ministre, ancien président de Radio France et de la Bibliothèque Nationale de France, né dans une famille de grands serviteurs de l'État, Jean-Noël Jeannonet a eu très tôt le goût de l'histoire et de la politique, le goût de l'écriture aussi. Et, ajoute-t-il, une certaine fascination pour la transmission et les rebonds de la longue durée de siècle en siècle. Un goût pour la concordance des temps, en quelque sorte, pour reprendre le titre de son émission de France Culture. Nous allons en parler aujourd'hui. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur le site de la radio, www.rfi.fr, pour l'écouter quand vous le souhaitez. Bonjour Jean-Noël Jeannonet.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, c'est une joie, comme à chaque fois, de vous recevoir, et particulièrement, dirais-je, aujourd'hui, parce que vous publiez donc ce premier tome de vos mémoires. Je ne sais pas combien il y en aura, mais...
Moi non plus.
Celui-là couvre la période 1942-1982, donc de votre naissance à... votre nomination à la présidence de Radio France.
RFI, vous avez oublié RFI.
Et de RFI. Et de
je suis très fier d'avoir été président d'RFI de 1983 à 86.
On aura compté sur moi l'occasion d'en reparler, peut-être la prochaine fois pour l'autre tome qui va commencer à cette époque-là. C'est aussi, en quelque sorte, une histoire de la Ve République que vous nous offrez, là, en quelque sorte, avec vos souvenirs.
Oh, ce n'est pas, mon ambition n'est pas...
Vous,
pas exalté à ce point, mais effectivement, il se trouve que le récit de cet itinéraire accompagne les années, par un hasard chronologique en quelque sorte, accompagne les années de la Ve République, puisque le livre, ma réflexion commence de fait en 1958, au moment où au lycée Louis le Grand, entre camarades, nous discutons de la réaction qu'en tant que jeunes citoyens nous devons avoir en face de l'éventuelle arrivée au pouvoir aux affaires du général de Gaulle.
Alors il y a l'actualité de l'époque qui est devenue une histoire, Jean-Noël Jeannonet, mais il y a aussi votre famille prestigieuse de grands serviteurs de l'État, votre grand-père Jules Jeannonet, votre père Jean-Marcel Jeannonet, qui, et là on le voit beaucoup dans ce livre, est ministre quand vous êtes enfant. Il a été ministre de 1959 à 1969 au départ du général de Gaulle.
Je ne suis plus enfant, j'ai 17 ans de fait. Il a été en effet.
Un grand enfant. Alors.
Il a été pendant de longues années ministre, en effet, durant les années gaulliennes, entre 1959 et 1969, puisque c'est lui qui a finalement préparé le référendum malheureux d'avril 1969. Et de fait, c'est à partir de mon âge de 17 ans que c'est au moment où je suis adolescent et où je prends vraiment conscience de l'intérêt de la vie politique. Vous me dites que je suis dans une famille qui a joué en effet un rôle. C'est une bourgeoisie, je dirais, intellectuelle, universitaire et politique. Ce n'est jamais une bourgeoisie d'affaires. Mais il est vrai que très jeune, j'ai éprouvé comme une chance, comme un privilège, vraiment absolument pas comme un mérite, d'être né dans un monde tourné vers les choses de la République et de l'État, avec en plus l'avantage, contrairement à d'autres auxquels je pense parfois, que mon grand-père et mon père ont joué un rôle important, mais n'ont jamais été tout à fait au devant de la scène. Ce n'est pas comme si on est le fils de Pompidou ou même de Michel Debré. Donc j'avais tous les avantages sans les inconvénients.
Et parmi les avantages, il y a ces rencontres avec tous ces grands acteurs de la Ve République que votre père connaissait, qui étaient parfois chez vous, vous les avez vus de très près. On va parler d'André Malraux dans quelques minutes.
Mon père aimait beaucoup raconter à ses enfants, qui étaient nombreux, nous étions 7, et en particulier, c'était une époque dépassée, à son fils aîné que j'étais, entre 2 sœurs avant moi et 2 sœurs après, il racontait à tout le monde, mais en particulier à moi-même, parce qu'il avait pris conscience très tôt que j'avais pour les choses de la politique une dilection particulière.
Alors il faut parler de cette enfance, là pour le coup, cette enfance à Grenoble, parce que vous qui êtes Parisien, un vrai Parisien, vous êtes né à Grenoble et vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 11 ans.
Oui, oui, c'est un hasard de garnison. Mon père était à l'époque professeur à la faculté de droit de Grenoble, où il enseignait l'économie politique. Il l'était pendant la guerre, il l'a été ensuite jusqu'à ce qu'il soit élu par ses pairs à Paris. Et c'est à ce moment-là, en effet, que j'ai rejoint la capitale, où je me sens vraiment aujourd'hui enraciné, tout en ne récusant pas mes origines qu'on appelait à l'époque provinciales, soit dans l'Isère, je suis né à Grenoble, soit en Franche-Comté, puisque mes ancêtres étaient paysans dans le département de la Haute-Saône, et que mon grand-père avait une maison dans le village que j'aime beaucoup, de Rio, j'étais encore l'autre jour, à mi-distance entre Vesoul et Besançon. Et je tiens à ces racines, même si profondément, évidemment, je me sens parisien.
Alors votre livre est en quelque sorte aussi dédié à la contingence, au hasard, d'où le titre « Le rocher de Sustaine ». Il faut, Jean-Noël Jeannet, que vous nous expliquiez ce qu'est ce rocher de Sustaine et pourquoi vous avez commencé d'ailleurs ce premier tome de vos mémoires avec cet épisode.
D'abord, je ne voulais pas commencer comme d'autres mémoires. Le 2 avril 1942, je suis né, il y a eu un avant et un après, etc., dans l'histoire de l'humanité. Non, mais surtout cet épisode, évidemment, m'a marqué. Je revenais en deux chevaux, à 18 ans, avec des amis, avec deux camarades de la Grèce. Nous étions deux voitures, mais nous étions séparés. Et en effet, près d'Andermatt, près du Saint-Gothard, au col de Sustaine, il est advenu que, par un hasard prodigieux, en vérité, enfin un hasard en tout cas, nous descendions une route parmi le brouillard en suivant une grosse voiture américaine dont les yeux arrière clignotaient. Tout à coup, il s'est passé quelque chose que nous n'avons pas compris tout de suite. Notre voiture s'est arrêtée à 2 mètres de la voiture américaine, qui était écrasée par un énorme rocher qui avait, sous l'effet de la pluie, de l'humidité, glissé sur lui-même et qui avait mis cette malheureuse voiture et ses habitants en capilotade. Et si j'ai choisi ce moment-là, c'est parce qu'il me paraissait une manière d'incarner la part du hasard dans la vie de chacun. Ce qui m'intéresse en tant que citoyen, bien sûr. À deux secondes près, je n'aurais pas le plaisir, Pierre-Édouard Deldic, d'être devant vous à ce micro aujourd'hui. Et donc c'était une réflexion sur le hasard et aussi sur la détermination. Je ne dis pas que tout est hasard, loin de là, mais pour les destins individuels comme pour l'histoire des nations, qui m'a ensuite beaucoup intéressé, et de la France en particulier, j'ai toujours été intéressé par cette manière qu'a le destin de tricoter les rythmes de la durée entre l'immédiateté, de la contingence, sa majesté, le hasard, disait Voltaire. Et d'autre part, des mouvements profonds et aussi des possibilités de choix, parce que c'est l'ensemble de ces forces immédiates ou de long terme qui déterminent à chaque moment la latitude d'action, c'est-à-dire la liberté de chacun dont je salue l'importance et dont je crois la part très grande aussi.
Alors votre scolarité est une scolarité prestigieuse d'enfants qui travaillent, qui lit beaucoup, et pour cause. Il y a aussi ce contexte aussi familial, il y a votre caractère également, Louis le Grand, Normal Sup, pour ne pas parler de la période d'avant.
Oui, bien sûr, Montaigne, Louis le Grand, l'école, la Cagne, Louis le Grand, et l'école normale. J'essaie de restituer ce qu'était l'ambiance de ce moment-là. Et comment ces études nous ont donné, là encore, une liberté rare. Dans le cas de la Cagne, nous étions un peu encasernés, pendant que les camarades pouvaient regarder du côté des jeunes filles et de plus de liberté. Il faut vous rappeler que c'était, à l'époque, on a peine aujourd'hui à le comprendre, à en prendre conscience chez nos enfants. Nous étions uniquement entre garçons, jusqu'à la Cagne. Donc la Cagne qui était une espèce d'île et en même temps pour moi ouverte sur le monde, puisque j'habitais pour une partie, chez après de mon père, au ministère de l'Industrie, et j'étais évidemment goulûment attentif à tout ce que je pouvais observer et regarder. Puis ensuite, l'école normale, effectivement, qui était un moment de prodigieuse liberté, où j'étais dans une situation un peu spéciale, parce que...
Parce que vous dites quand même dans ces mémoires, Jean-Noël Jeannet, que vous ne vous sentiez pas tout à fait à l'aise à Normal Sup, parce que on vous savait fils de ministre, et le régime gaulliste était fort critiqué à Normal Sup.
Bien sûr, une grande majorité était à gauche ou à l'extrême gauche, en particulier les philosophes, et considéraient que De Gaulle était un personnage destiné à opprimer plus ou moins la démocratie et la liberté. En gros, il y avait un assez fort anti-gaullisme, et les seuls qui étaient vraiment gaullistes ou qui s'approchaient du gaullisme, c'était à droite ou à l'extrême droite des gens que je voyais des cendres au fond de traditions qui n'étaient absolument pas les miennes. Même l'Action française à l'extrême. Donc j'ai, mais moi je savais, parce que je comprenais de près, par mon père en particulier, que De Gaulle voulait faire la paix en Algérie, que c'était le seul qui y parviendrait et qui nous épargnerait la guerre civile, que la 4ème République, avec tous ses mérites, était sur le point de provoquer. Et par conséquent, effectivement, à l'école normale, je me sentais un peu en porte-à-faux. Mais à vrai dire, ça ne m'a pas rendu malheureux, parce que j'ai néanmoins créé, tissé des camaraderies extrêmement précieuses. Et au fond, c'est demeuré un moment de liberté. Et je crois que le choix de l'histoire, à cet égard, a ajouté à mon plaisir et de cette liberté. Vous savez, j'ai hésité un moment entre la philo et l'histoire. Et le jury de la philosophie comprenait Michel Foucault et Jean-Hippolyte Spéciel, qui était un autre grand philosophe. Je leur ai demandé, après avoir passé l'épreuve, mon sujet que j'avais tiré, c'était le génie. Visiblement, ils n'avaient pas trouvé que j'en avais beaucoup. Et j'aurais dit, j'hésite entre l'histoire et la philosophie très prestigieuse, etc. Et ils m'ont dit, n'hésitez pas. Faites de l'histoire. J'étais un peu agacé pendant 24 heures et ensuite, pendant toute ma vie, extrêmement content du conseil qui m'avait été donné.
Et vous dites, vous écrivez, je n'ai jamais regretté la décision de pratiquer l'histoire.
Oui, voilà. Alors, j'ai pensé que c'était une discipline, une science, ce serait prétentieux, une discipline propre à me permettre de m'y épanouir et d'en tirer beaucoup de satisfaction de toutes sortes. Les histoires, la réflexion sur l'ensemble, et aussi un certain plaisir d'écrire qui nous demeure par rapport à d'autres disciplines où, au fond, on y attache moins d'importance.
Alors j'y viens, Jean-Noël Jeannet, parce que pour écrire ces mémoires qui sont extrêmement précises, détaillées, il a bien fallu que vous preniez des notes au fur et à mesure. Et vous m'avez dit, juste avant l'émission, que très tôt, vous avez commencé à rédiger des carnets.
Oui, j'ai toujours été en quelque sorte fasciné par le risque que les choses s'échappent, qu'on n'en garde pas trace. Et j'ai commencé en effet à tenir des carnets de façon un peu intermittente à partir de 15 ans, que j'ai conservé, et de façon plus systématique ensuite. Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses qui sont sans intérêt, mais en m'y replongeant, j'avais beaucoup oublié d'ailleurs, quelquefois je n'avais pas relu ces notes depuis des décennies, j'ai trouvé en effet une matière qui m'a paru propre à nourrir le livre que vous avez devant vous.
L'enfant que vous étiez à la lecture de ces mémoires, Jean-Noël Jeannet, était un enfant très attentif, très tôt à l'écoute de ce qui se passait dans le monde. En France, cas, singulièrement.
Oui, bien sûr. Bah, ça, c'était pas extraordinaire. J'avais la chance d'être dans un endroit où on gardait beaucoup la politique. J'ai habité un moment, lorsque nous sommes revenus à Paris, chez mon grand-père, qui était à la retraite, déjà nonagénaire.
Et, le grand Jules Jeannonet, votre grand-père paternel, président du Sénat.
Qui avait été premier. Oui, et donc, c'était l'occasion de me faire raconter déjà beaucoup de choses intéressantes. Il a été le ministre deux fois seulement, une fois avec Clémenceau en 1917-1919 comme secrétaire d'État et une fois comme ministre d'État de De Gaulle en 44, et les deux hommes étaient restés de grandes admirations pour lui. Il en parlait bien, il y avait leur photo dédicacée sur le mur, je me rappelle. Et donc effectivement, franchement, si je n'avais pas été curieux des choses de la politique en étant dans ce petit chaudron là j'aurais été tout à fait inégal à ce que la chance me donnait en partage.
Alors, votre livre est aussi un livre de rencontres. On y croise énormément de personnages. J'aurais déjà cité deux noms pour des raisons très différentes. Celui de Clément Rosset, que vous avez connu jeune. Oui, philosophe, Clément Rosset, qui nous a quittés récemment.
Oui, ouais. C'est un grand philosophe, un peu marginal.
Il a écrit sur la joie.
Oui, la joie. Il avait une capacité de bonheur qui m'avait toujours frappé. De mépris aussi pour un certain nombre d'œuvres. Il se trouve que nous faisions ce qu'on appelait à l'époque du petit latin, c'est-à-dire que pour préparer l'oral du concours à l'école, nous vérifions que nous pouvions à peu près traduire dans la collection Budet, vous savez, des textes latins, texte français à droite, texte latin à gauche ou le contraire, et il fallait deux pour s'entraîner. Et là, effectivement, c'était l'occasion de le connaître et de l'apprécier. Je ne sais plus pourquoi nous étions rapprochés, mais nous avons fait amitié et donc je raconte cela compte tenu du destin de Clément Rosset, parce que j'avais noté certaines de nos conversations.
Quelqu'un d'un peu en marge de l'école.
Oui, c'était un homme libre et c'est cette liberté que j'ai souhaité dans ce portrait, parmi beaucoup d'autres, restitué.
Il y a un autre nom, pour des raisons tout à fait différentes, que je voudrais citer sur RFI à cette antenne, c'est celui de Philippe Saint-Denis.
Ah, Philippe Saint-Denis, parce qu'il a été en effet directeur des programmes et de l'information à Radio France Internationale. Quand j'étais président de votre maison, j'ai un peu contribué à ce qu'il vint. Et en effet, c'était un ami. Je l'ai connu à l'âge de 10 ans, puisqu'il était en classe en 6e quand je suis arrivé au lycée Montaigne, effectivement. Nous discutions de l'existence de Dieu, je me rappelle à l'arrêt du
tout simplement
à l'arrêt de l'autobus de 82, il était pour, j'étais contre, enfin, et ça a fondé une amitié qui dure encore. Et je crois que dans ce livre, on doit sentir aussi à quel point l'amitié est pour moi essentielle.
La fidélité.
Oui, la fidélité, mais c'est non. Mais je veux dire l'amitié. Je cite aussi Cicéron, De Amicitia, que nous avions traduit un jour en Cagne et qui m'avait frappé. Philippe Saint-Denis, le plus ancien de mes amis, et il est toujours là, et je suis heureux de le saluer à ce micro.
Alors, Normal Sup, on a quitté Normal Sup. Que s'est-il passé à partir de ce moment-là, Jean-Noël Jeannet? Il faut que vous le racontiez à nos auditeurs. Avant de parler de ce début de cette carrière de recherche, d'enseignant, notamment à Nanterre, que vous expliquez, il y a ces voyages. Alors ça, c'est une période bénie que vous avez connue. Vous avez pu voyager assez librement en Italie, en Asie, aux États-Unis, sitôt les études terminées.
Très, très, très librement. J'ai bénéficié d'une bourse qui s'appelait Saint-Gerre-Polignac. La princesse de Polignac était la fille des machines à coups de Saint-Gerre, donc elle avait à la fois le titre et l'argent. Et après elle, on avait décidé de créer des bourses distribuées à 4 étudiants généraux de grandes écoles. Mes camarades n'avaient pas grand goût de cela, ils avaient passé l'agrégation. Et moi, j'avais l'impression qu'après avoir été dans les livres, même si j'avais pas mal regardé ailleurs, j'avais envie de un tour du monde, c'est une tradition qui remonte au 19e siècle. Et effectivement, j'ai eu cette bourse qui était très généreuse, c'était pas la bourse Elijah, qui m'a permis d'aller 5 mois en Extrême-Orient et ensuite de traverser les États-Unis un peu plus tard. J'en ai fait d'ailleurs un livre qui s'appelait Le Riz et le Rouge, qui est le premier livre que j'ai publié aux éditions du Seuil. Et j'allais dans chaque pays, en particulier en Asie, en me disant qu'il fallait éviter de me trouver enserré dans dans seul ensemble de la communauté française. C'est très facile, on est accueillis gentiment, etc. Et que je voulais y échapper. Et donc j'ai pris comme principe, chaque fois que je le pouvais, d'accompagner un parlementaire dans sa circonscription. De trouver un parlementaire. Et ça permettait effectivement d'un coup de sortir de la capitale et de faire quelques observations peut-être dignes d'intérêt, même si je ne prétends pas après avoir passé quelques semaines dans chacun des pays, être définitif. Mais néanmoins, j'ai repris dans ce livre ce qui me paraissait le plus propre à intéresser les lecteurs.
Et vous faites aussi des rencontres prestigieuses aux États-Unis. Vous rencontrez Kerensky, vous rencontrez Alexis Léger.
Oui, alors j'ai toujours aimé, je dois dire, voir les vieux messieurs.
Qui ont des choses à raconter.
Les vieilles dames, j'ai pas raconté. Lily Pons, la cantatrice aussi. Et comme j'étais aux États-Unis, j'ai appris qu'il y avait Kerensky. Vous vous rappelez, Kerensky, c'était l'homme qui avait en 1917, en Russie, présidé pendant quelques mois un gouvernement social-démocrate avant que Lénine ne l'évacua du pouvoir. Il avait échappé d'ailleurs de justesse à la mort. Et depuis, il vivait dans le chagrin et la mémoire de ce moment historique qui était devenu un peu un symbole aux yeux des anticommunistes. Kerensky, c'est celui qui avait tendu la perche aux totalitaires ultérieurs. Il était là, j'ai appris, il avait plus de 80 ans. Et je me suis dit, c'est passionnant d'aller voir Kerensky. Et puis, je raconte ces impressions. Et ça me paraît aussi illustrer une idée que j'ai, c'est que même si on dit que l'histoire s'accélère, elle s'est ralentie aussi. Puisque, quand je pourrais raconter à mes petites filles que j'avais vu Kerensky, et quand elles auront 90 ans, elles diront « Kerensky disait à mon grand-père », et on parcourra 2 siècles, vous voyez. Donc ça, effectivement, et Kerensky, c'est intéressant. Vous parlez de Saint-Jean-de-Perse, alors c'est Alexis Léger.
Alexis Léger,
là,
oui.
Là, effectivement, il y a...
Vous le rencontrez aux États-Unis, à Washington, et bon, il faut savoir qu'il était un anti-gaulliste notoire, notamment.
Oui, nous avons essayé, j'étais avec mon ami Philippe Levillain, avec qui je voyageais. C'est toujours bien d'être deux parce qu'on peut échanger des impressions et des regards. Et nous avons décidé d'aller voir Alexis Léger, Saint-Jean-de-Perse. J'admirais beaucoup l'œuvre poétique. J'avais envie de le connaître. Et nous avons trouvé un homme très peu désireux en fait de parler de poésie. Il avait un peu un discours tout préparé. Et dès que nous l'avons fait dévier vers la politique, nous l'avons vu
Prendre des couleurs.
Et alors, s'il regardait De Gaulle, c'était des couleurs extrêmement sombres. Il était mu par une sorte d'anti-gaullisme obsessionnel. Enfin, je renvoie à ce texte. Et au fond, sa pensée s'était figée à l'époque où il était secrétaire général du Quai d'Orsay, dans les années 30. Et il parlait parfois de certains avec commisération. Churchill n'avait pas la tête politique, ça nous a un peu surpris. Et puis surtout, il avait joué un rôle que De Gaulle avait détesté, évidemment, à partir de 1941-42. il avait vu assez souvent Roosevelt, le président américain, et les siens. Il leur avait expliqué que De Gaulle était un militaire dévoyé et qu'il fallait se méfier de ce personnage.
Et c'est pour ça que Roosevelt a fini par détester...
C'est une des raisons. Oui, il voulait le nommer gouverneur de Madagascar. Vous voyez, on en était. Roosevelt voulait nommer De Gaulle gouverneur de Madagascar. Ça a compliqué beaucoup la tâche de Gaulle. Et lorsqu'il est venu, d'ailleurs, comme président à Washington, on m'a raconté qu'à l'ambassade, il y avait une grande réception. De Gaulle avait personnellement rayé le nom d'Alexis Léger. Il était capable de quelques légitimes rancunes.
Alors, nous allons parler du général De Gaulle dans un instant et d'un fameux déjeuner que vous racontez dans ses mémoires, Jean-Noël Jeannet. Mais je trouve fascinant cette démarche de voyage et de recueil, d'interview, d'entretien à la fois journalistique et historique.
Écoutez, quand j'ai la chance d'assister à un dîner où mon père a invité son collègue du gouvernement, Malraux, dont il n'était pas du tout un intime, il l'invite, je ne peux pas ne pas, en sortant, me précipiter sur mon écritoire et prendre des notes. Et ce sont ces notes qui m'ont permis de retracer ce portrait.
Alors, Malraux. Alors, ça vous en fait une description très, très drôle d'un Malraux en pleine forme et qui a des considérations diverses et variées dans la même conversation et même dans sa façon d'être. Voilà ce que vous écrivez. Des tics lui tiraillaient le visage, mais il disparaissait à peu près lorsqu'il parlait et des silences étaient rares. Il précipitait les mots, les comprimait, comme pour s'assurer que l'attention de tous, un effort pour les saisir, était intacte. Je voyais surgir par moments en lui une jeunesse qui rejoignait les images de nos manuels de littérature. Ses yeux étaient larges, ses mains qui étaient belles accompagnaient généreusement sa parole, avec de soudains retours à sa bouche, comme pour scander l'effet fulgurant de ses sentences. Il n'y avait rien de figé chez lui, en contraste avec ce qu'il advient souvent à des illustres que l'âge immobilise et momifie dans le personnage qu'ils ont construit. La gloire ne lui était ni masque ni carcan. On marquera aussi le style de Jean-Noël Jeannet. Mais cette rencontre est assez fascinante.
Oui, bah écoutez, Malraux c'était Malraux, donc... le fait de pouvoir l'approcher de la sorte.
Mais vous racontez très bien le cénacle, ce salon qui se crée, enfin où tout le monde se retourne vers Malraux et l'écoute, chacun boit ses paroles.
Avec un mélange d'observations fulgurantes et de brusques propos dont on ne voyait pas toujours le lien avec ce qui précédait et qui rejoignait le sens du cocasse. Et à un moment donné, il s'est adressé au maître d'hôtel qui était très, très étonné pour lui dire je ne sais plus quoi.
Et il fallait surtout pas l'interrompre parce que ça relançait en quelque sorte.
Personne n'y songeait vraiment. Il se saisissait d'une petite interruption éventuellement mondaine pour rebondir de la façon la plus étonnante et parfois la plus farfelue possible. C'était vraiment fascinant.
André Malraux a toujours eu des rapports privilégiés avec les chats.
La théorie était jusqu'à la guerre que Azincourt, les Français avaient été battus parce que n'ayant pas de carquois pour leurs arcs, leurs arcs avaient été détrempés et qu'ils n'avaient pas pu tirer contre les Anglais. Et les informations anglaises depuis la guerre ont donné un texte excessivement amusant qui est que les Anglais avaient des capitaineries de chats et ils avaient des chats. Bon, pour je sais pas quoi. Quand les rats qui étaient, plus ou moins, liés à la peste noire, sont arrivés vers le champ de bataille, ils ont senti les chats, et ils sont allés de l'autre côté, et ils ont mangé les cordes des arcs. Et c'est pour ça qu'il y a eu des capitaineries de chats, jusqu'en 1760, en Angleterre, on ne savait plus à quoi ça servait. Et c'était ça l'origine. Il y a des Anglais qui ont rétabli ce truc. Alors je l'ai raconté au général de Gaulle, qui m'a dit... Il faut aller voir s'ils ne sont pas servis d'arbalètes. ça serait bien qu'il n'y ait eu que des arbalètes, que ce soit faux, mais c'est trop beau.
Idée.
Les manifestants fuient maintenant de la place Edmond-Rostand. Il semble qu'il y ait une charge assez violente, oui. Maintenant, c'est le matraquage. Les manifestants refluent vers la place de la Sorbonne. Les ambulances suivent derrière.
Merci. Alors, comment avez-vous vécu, au journal Jeannet, les événements, entre guillemets, de 1968, alors que vous avez suivi très attentivement?
Oui, alors naturellement, j'avais l'impression que c'était l'histoire en marche, donc j'ai pris beaucoup de notes, oui. J'étais en train de finir mon service militaire à Paris, et donc cela, en soi, m'obligeait à une certaine réserve. Et puis, mon père était au gouvernement, donc j'ai suivi jour après jour la manière dont lui vivait ces moments-là.
C'est ça, vous aviez...
Il le racontait. Et en même temps, j'étais très curieux de la rue et de ce qui se passait. Donc, je me situais quelque part du côté de ce qu'on pourrait appeler un gaullisme de gauche. Mais en vérité, c'était ça. J'étais très inquiet que De Gaulle parte chassé par la rue ou qu'il soit amené à faire tirer sur la foule, qu'il parte comme Metternich, vous savez, le chancelier autrichien qui était parti dans une corbeille de buanderie, de Lavandière, qui c'était tout à fait lamentable. Ça a été ma préoccupation et en même temps j'étais sensible à tout ce qu'il y avait de générosité, de force, d'imagination chez ceux qui manifestaient. J'avais pas du tout d'hostilité, donc j'étais curieux de ça. Je suis allé à l'Odéon, je suis allé évidemment voir les rues où il y avait des barricades. Je ne pouvais pas participer à cet élan, mais je ne pouvais pas non plus le considérer comme ni dérisoire ni absurde. Et donc c'est une position que d'autres ont dû avoir, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de récits de quelqu'un qui était dans cette position-là.
C'est ce que je voulais souligner, effectivement. Vous aviez chez vous, avec vos parents, votre père singulièrement, l'écho de ce qui se passait au sein du pouvoir, et vous aviez dans la rue les événements tels qu'ils se passaient.
Voilà, je raconte tout ça, effectivement, en détail. Je raconte l'Odéon, vous savez, occupé par les acteurs de mai 68, etc. Et puis la rue.
Et cette description que vous faites de cette époque est assez distanciée. C'est-à-dire que on sent peut-être que dès cette époque, c'est un peu l'historien qui regardait, qui essayait. Vous n'étiez pas militant.
Non, je n'étais pas militant, puisque je n'étais pas du tout militant du côté de ceux qui étaient les adversaires. Et quand j'ai vu passer le grand défilé gaulliste sur les Champs-Élysées, je suis resté en marche. Je me sentais pas. J'étais assez content qu'il ait lieu, mais j'avais pas envie d'en être vu un certain nombre de comportements. Et en même temps, je pouvais pas aller manifester avec ceux qui appelaient au départ du général de Gaulle dans des conditions qui auraient été dérisoires. J'avais bien le sentiment, quand même, que de Gaulle avait apporté énormément à la France, notamment en politique étrangère. Le sentiment aussi qu'il y avait du retard du côté des mœurs, du côté de l'université où j'abordais, et qui était quand même très conservatrice à ce moment-là. Donc, qu'il y ait eu des indignations, des protestations, des rêves, des utopies, je ne pouvais qu'y être sensible. C'est quelque part là que je me situais, et c'est cet état d'esprit que je restitue dans ce récit détaillé de mai 68, tel que un garçon tel que j'étais l'a vécu à ce moment-là.
De Gaulle qui a quitté le pouvoir à la suite du référendum que l'on sait en avril 1969, et vous avez eu la chance de le rencontrer avec votre famille, votre père, votre mère, à Colombey le 30 décembre 1969. Alors, vous nous emmenez comme Malraux, sauf que vous, c'est en vrai à Colombey. Hein. Vous nous racontez même le stress, comme on dit aujourd'hui, qui vous habitait à la perspective d'aller à Colombey déjeuner.
Écoutez, je ne l'avais jamais vu en tête à tête. C'était le général de Gaulle. Oui, j'avais un peu le trac. Je me rappelle que ma mère m'a dit « Arrête de dire cela parce que tu vas nous le donner à ton tour ». Mais c'était une chance remarquable. On était en effet quelques semaines après la visite de Malraux, qui en a tiré, comme vous savez, avec une poésie...
Les chaînes qu'on abat.
D'imagination, largement, ouais. Mais un très beau livre. Les chaînes qu'on abat. Il avait souhaité inviter quatre de ses ministres, anciens ministres, qui n'avaient pas participé au gouvernement de Pompidou. C'est-à-dire Mesmer, Couve de Murville, Malraux et mon père. Il avait dit à mon père, si un de vos enfants veut conduire la voiture, il sera le bienvenu. Et à cette époque, il y avait encore un effet de primogéniture mâle. Et mon père m'a proposé de conduire. J'étais absolument ravi. Et en effet, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de raconter avec des détails d'atmosphère, d'ambiance, une conversation qui a été, pour moi, évidemment, tout à fait fascinante. Et c'est cela que je livre dans ces pages, en pensant aussi que c'était une façon de participer aux célébrations de l'anniversaire cette année du général de Gaulle.
Ah, vous écrivez, Jean-Noël Jeannet, je ressentis déjà, une fois arrivé à Colombey, à peine arrivé à Colombey, je ressentais déjà le contraste particulier qui fut constant durant toute la suite entre la raideur des rites qu'on sentait immuable, prolongeant dans la retraite le protocole de naguère et d'autre part la simplicité spontanée d'une atmosphère familiale.
Oui, c'est ça. Il avait un côté, de Gaulle, d'un peu un gentleman farmer, un peu retiré des affaires. Il nous a beaucoup parlé de ses mémoires qu'il était en train d'écrire, les mémoires d'espoir, dont seul le premier tome et un chapitre du second sont parus. Il nous a dit « j'ai besoin de 4 ans pour les écrire », il ne les a pas eus. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui, le jugement des contemporains... ça m'est assez égal. En revanche, nous disait-il, le jugement de l'histoire, oui, qu'on regarde la façon dont j'ai agi et ce que mon œuvre peut impliquer d'éventuels héritages, d'incitations à d'autres grands événements plus tard. Ça, c'est important pour moi. Quant à l'actualité immédiate, il était très, très détaché. Il a dit à mon père, je veux pas que vous rapportiez quoi que ce soit de ce que je vous ai dit, qu'on dise que le général de Gaulle, etc. Il a bien fait parce que, à un moment donné, à propos de l'entrée de la Grande-Bretagne, dans la communauté européenne, il a expliqué qu'il continue à penser que c'était une très mauvaise idée. Et aujourd'hui, évidemment, tout cela se colore d'une façon particulière, mais que, à son avis, Pompidou ne souhaiterait pas l'empêcher. Et il nous a dit où ils vont être attiboisés. Pompidou, il est complètement hors du coup. Alors, effectivement, on voit les grands titres si nous l'avions dit, mais j'ai attendu 50 ans pour le raconter. Il y avait dans tout ça le vrai sentiment d'une évolution, notamment vers la droite, qui était patente, et puis peut-être un peu de quelque chose qui arrive chez certains acteurs, d'être irrité par leurs successeurs, de toute façon. Mais enfin, c'était surtout politique, et ça nous a évidemment frappé. Il a parlé très librement, un mélange de...
Avec vous, notamment, vous lui avez posé des questions.
Ben, oui, bien sûr, je lui avais envoyé mon livre, Le Riel Rouge, mon livre de voyage. Il m'a écrit une lettre manuscrite, d'ailleurs, que je garde évidemment très précieusement et que j'ai fait éditer dans sa correspondance. En naviguant sur l'océan de l'Asie, vous avez observé les choses, les gens et les choses, et maintenant vous savez nous les faire voir. Vous savez, je connais presque par cœur cette lettre. Et donc, je l'en ai remercié. Il savait que j'enseignais déjà à Nanterre comme assistant, donc il nous a parlé aussi d'histoire. Mais c'était un mélange d'anecdotes, mais qu'évidemment je notais avec avidité et qui avaient chacune à mes yeux son sens, et puis de réflexions plus larges à propos de l'enseignement que je donnais et sur lequel il m'a interrogé, sur les nations, l'internationalisme au 19e siècle, etc.
Et il y a donc ce style, Jean-Noël Jeannet, il y a aussi le choix des mots qui est le vôtre dans ce livre écrit vraiment avec un grand soin, une grande précision. Presque de la couture, vous écrivez, par exemple, selon l'une de ces soudaines ascendettes qui marquait sa conversation, il se tourna vers ma mère, vous êtes madame, une famille très solidaire, ascendette.
Cela veut dire en grammaire ancienne, la coupure,
sans conjonction.
Oui, quand vos confrères disent sans transition, vous vous rappelez? C'est un peu un tic, mais là, oui, j'ai employé ce mot, effectivement, c'est peut-être un mot de vieux cagneux qui a fait beaucoup de latin, mais je ne me suis pas interdit, effectivement, je ne m'interdis jamais d'employer des mots un peu rares, quitte à être taxés de préciosité, parce que je trouve que tous ceux qui tiennent une plume ou qui ont un micro se doivent de contribuer à entretenir la richesse de la langue.
Et vous ressuscitez en quelque sorte des mots, même des mots pas très anciens, comme chandail, qui a disparu, regimber, c'est-à-dire hésiter, ne pas vouloir...
Protester, oui.
Coruscant, de brillant, enfin de
oui, mais c'est un beau mot, coruscant,
oui,
non?
Oui, bien sûr, oui. Clabaudage,
ça veut dire qu'on répand des rumeurs ou des petits bruits peu obligeants sur ses contemporains.
L'expression se revancher?
Oui, prendre sa revanche.
Oui. Alors, il y a ces rencontres d'hommes politiques, de Gaulle, évidemment, notamment, mais il y a aussi des rencontres intellectuelles. Parce qu'il nous faut parler maintenant de l'après-Normale Sup et votre carrière de jeune chercheur d'enseignant qui a commencé à Nanterre.
Oui, j'ai été nommé, c'était une époque bénie parce que j'appartenais...
Vous êtes resté 7 ans.
J'appartenais à une génération qui était juste avant le baby-boom, étant né en 1942, et donc il y avait encore pour des jeunes normaliens assez facilement des places directement dans l'enseignement supérieur, ce qui n'a pas été vrai ensuite. Et effectivement, René Raymond, qui a été mon maître, qui était un historien hors de pair et un homme d'une grande qualité humaine, m'a fait venir à Nanterre et aussi enseigner à Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Et je suis resté à Nanterre pendant un certain temps, pendant quelques années. C'était le temps de la rédaction de ma thèse ou de mes thèses. Et c'était le temps du plaisir, de la découverte du plaisir d'enseigner, c'est-à-dire d'apprendre.
Avec cet intérêt pour l'histoire politique.
Oui, bien sûr, l'histoire politique, l'histoire culturelle aussi, l'histoire des médias. monsieur le journaliste.
Oui, oui, vous êtes devenu, j'y viens tranquillement.
Je ne veux pas vous devancer, mais ça m'intéresse. Mais oui. Pas seulement l'histoire culturelle au sens large. J'étais dans une génération où on est sorti d'une histoire politique un peu événementielle, un peu linéaire, et on a enrichi celle-ci par une réflexion sur les représentations. Vous savez, l'idée que une idée fausse est un fait vrai. J'ai écrit un livre là-dessus à un moment donné. C'est-à-dire l'idée que la manière dont les cultures se transmettent compte autant que les événements pour forger les tempéraments, les groupes, les actions.
Donc c'est un renouveau de l'histoire politique, hein, pour le concept, cette démarche.
Qui était avec l'école de René Raymond notamment, ce qu'on appelait l'axe Nanterre Sciences Po. Oui, toute un petit groupe, une petite cohorte d'amis qui y ont contribué, que je cite et que je suis heureux de citer parce que ce sont des historiens remarquables, et Azéma, Vinocq, Bersten, Jean-Pierre Rioux et d'autres. Qui nous ont d'ailleurs, pour une bonne part, rejoint ensuite à Sciences Po lorsque j'ai été nommé en 1977. Et là, c'était magnifique parce que j'avais ma chaire, j'étais libre et par conséquent à même de faire ce que je voudrais sans que personne ne puisse peser sur mon destin. En venant vous voir, je me disais, j'avais jamais réfléchi à ça, qu'au fond, j'avais jamais été sous l'autorité de personne, sauf quand j'étais brièvement au gouvernement. Mais là, on pouvait toujours démissionner rapidement et que c'était une chance, mais que le fait d'être universitaire avec les limites matérielles que ça représente, était précisément ce qui permettait d'entrer éventuellement dans l'arène, d'en sortir, tout en étant parfaitement libre.
À quoi ressemblait Nanterre à l'époque où vous y étiez? Parce qu'elle était toute neuve, cette université.
C'était très tumultueux. On était dans la suite de 68, du 22 mars. Tout avait commencé à Nanterre, comme vous savez. Et effectivement, en 70, 71, c'était encore très plein de passion. La presse, à l'époque, s'intéressait beaucoup à Nanterre. On avait des grands titres dans les journaux. Et comme la presse s'y intéressait beaucoup, naturellement, les acteurs, c'est-à-dire la minorité d'étudiants qui étaient à la pointe des protestations de toutes sortes, étaient d'autant plus actifs qu'ils se savaient scrutés. Et ça a été le moment où, successivement, Paul Ricoeur, Grappin ont été contraints de quitter les postes de direction. Et René Raymond est devenu président. J'ai le souvenir d'une période compliquée parce qu'il y avait de brusques intrusions dans les amphithéâtres, parce qu'il y avait des refus des élections, etc. Et en même temps, il y avait quelque chose d'un peu lumineux dans cette sorte d'ambition. Je n'ai jamais été du côté de certains collègues et vieux professeurs qui ont dit « Quelle horreur, c'est insupportable, je vais aller enseigner en Suisse ». Non, j'étais à la fois... C'était incommode souvent. J'évitais de mettre mes deux chevaux dans le parking de peur qu'ils soient brûlés. Mais en somme, j'en ai gardé un bon souvenir parce qu'à l'intérieur même de ce tumulte, on arrivait à faire un enseignement très, très moderne pour un public qui était un public d'étudiants mélangés sociologiquement. Il y avait à la fois la banlieue ouest et des étudiants et étudiantes qui venaient de milieux nettement moins favorisés. Donc tout ça était positif et chaque jour j'arrivais à la gare de La Folie, c'était le nom topique de la gare à l'époque de Nanterre avec une vraie satisfaction.
Sciences Po a dû un peu être différent.
Ah, très différent.
L'ambiance de Sciences Po était radicalement différente, non?
J'avais été à Sciences Po, j'ai le titre d'ancienne, de diplômé de Sciences Po. Je voulais pas avoir de complexe à l'égard de ceux qui feraient l'ENA. J'ai décidé très tôt de ne pas le faire, tout en respectant l'énarchie. Mais je voulais avoir connu un peu tout ça. Et j'ai bien fait de le faire puisque ensuite ça m'a donné l'occasion de devenir un des tout premiers professeurs d'université à Sciences Po, ce que je suis resté, moyennant quelques escapades ensuite, jusqu'en 2011. Et c'était très bien aussi parce qu'il y avait un public choisi de bonne qualité, enfin nettement plus bourgeois évidemment dans l'ensemble, en dépit des efforts d'ouverture, que ce n'était le cas à Nanterre.
Alors sur le plan de vos recherches, il faut noter que vous avez consacré votre thèse d'État à François de Vandel.
Oui, l'histoire politique m'a intéressé. L'histoire politique m'a intéressé d'autant plus que j'ai pu braquer l'attention sur les forces exogènes qui pèsent sur les décisions et sur le cours des choses. Alors il y a eu en effet les forces de l'argent. J'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur les 10 000 pages du journal de François de Vindel, qui était un maître de forge très puissant et symbolique des 200 familles, qui était en même temps actif au journal des débats, député, sénateur, président du comité des forges, et sa fille, avec une générosité que je ne cesserai pas de célébrer, que je célèbre dans le livre, et contre l'avis d'une partie de la famille inquiète, ce type, m'avait donné accès à ses papiers, et j'en ai fait, en effet, un gros livre que j'ai publié ensuite, qui a été réédité plusieurs fois, François de Vindel en République, pour réfléchir à ce qu'était un personnage de ce type, ce qu'il a pu influencer, parfois de manière à préoccuper des démocrates même, et ce que son statut l'a empêché de faire aussi, à cause de la mythologie qui entourait les 200 familles. Et c'est ce destin que je raconte, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça, c'était les forces de l'argent. J'ai écrit beaucoup d'autres articles là-dessus, sur, par exemple, les fonds secrets, etc., que j'ai publié dans un livre qui s'appelle « L'argent caché ». Et puis, d'autre part, je me suis intéressé à notre corporation, c'est-à-dire l'influence des médias sur la vie publique.
Alors, effectivement, d'où vient cette fascination d'historien pour le monde des médias, Jean-Noël Genet? Après tout, vous n'étiez pas si nombreux que ça à vous y intéresser à l'époque, et d'ailleurs, aujourd'hui non plus, il y a pas beaucoup de monde, je trouve. D'où vient cette fascination? Je pense notamment à votre dictionnaire sur des médias, en fait. C'est
L'écho du siècle.
L'écho du siècle.
Qui est effectivement un dictionnaire sur l'audiovisuel français. Oui, j'ai beaucoup écrit de choses sur les médias. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, c'est-à-dire que c'est un monde d'abord pour lequel j'éprouve une sympathie spontanée.
Vous, le lecteur du Monde assidu, c'est-à-dire que vous avez lu le Monde très jeune.
Ouais, mon père le lisait et ça m'intéressait, effectivement, j'ai même commencé de le découper. Mais encore une fois, c'était pas un mérite, c'était être dans ce milieu-là incitait à aller dans cette direction. Et je suis toujours interrogé sur l'histoire des médias qui avait été négligée largement par l'histoire politique. J'avais observé, l'histoire des médias, ça veut dire naturellement les médias comme source. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Les médias comme acteurs, en quoi pèsent-ils? Et les médias comme reflets. Je veux dire que les organisations des médias, au fond, souvent constituent au sens propre une sorte de microcosme de la société. Les syndicats, les professions, etc. Ça aussi, c'était très intéressant. Plus la possibilité de faire ressurgir quelques personnalités coruscantes, puisque vous m'avez agréé cet adjectif, quelques personnalités coruscantes sur le devant de la scène. C'était vraiment très intéressant. Et en arrivant à Sciences Po, effectivement, j'ai voulu faire un séminaire sur l'histoire de l'audiovisuel. Et par là, je crois avoir un peu contribué, je suis sûr même, dès ce moment-là, à attirer l'attention du public et du monde politique sur la nécessité de créer un dépôt légal de l'audiovisuel. C'est-à-dire, il y a un dépôt légal des imprimés et de la presse, qu'on soit sûr de garder trace de tout ça, et que ça ne s'envole pas au grand vent des hasards commerciaux ou autres. Et c'est ce que j'ai demandé en 80 dans un article du Monde. Et c'est ce que le bonheur, vous voyez comme j'ai eu de la chance, ma chance a été que comme secrétaire d'État, on déborde de la période, comme secrétaire d'État à la communication, j'ai pu porter au Parlement une loi qui a installé le dépôt légal de l'audiovisuel. Aujourd'hui encore, les citoyens et les chercheurs peuvent y accéder d'une façon qui n'était pas à leur disposition auparavant.
L'historien que vous êtes, Jean-Noël Genet, a aussi participé à la création d'une très belle revue d'histoire qui s'appelle L'Histoire, justement, qui a innové vraiment le traitement de l'histoire. Je crois que c'était en 1978.
Oui.
Les premiers numéros, quelque part.
On a 40 ans de distance et elle vit toujours, très
magazine
active.
D'histoire.
C'était une idée de Michel Vinocq de lancer une revue qui n'existait pas à l'époque, à mi-chemin entre les revues de scientifiques, d'un côté, et les revues que l'on pourrait appeler de vulgarisation. Je dis ça sans mépris, mais s'interrogeant éternellement pour savoir qui était le masque de fer ou si Louis XVII a survécu.
Historien, par exemple.
Je pousse un peu.
Noble institution.
J'ai beaucoup lu Historia quand j'étais enfant et c'est une des racines de mon goût pour l'histoire. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de donner à un public cultivé accès à l'histoire. Problèmes, comme nous disons, les problèmes qui se posaient, l'histoire en mouvement, la recherche. Et je crois que aujourd'hui encore, les fidélités des lecteurs de l'histoire témoignent de ça. Par exemple, nous venons de publier un numéro, au moment des 40 ans, sur la pandémie. Le regard sur la pandémie, c'est un numéro qui est en vente. Un peu de publicité, ne messiez pas. Et c'est resté un lieu pour moi d'amitié et de satisfaction intellectuelle jusqu'aujourd'hui. Vraiment rare.
Vers la fin de ce premier tome, on attend d'ailleurs la suite, parce que ce premier tome s'arrête à votre nomination à la présidence de Radio France. Vous venez de l'apprendre.
40 ans.
Donc après, il faudra attendre quelques mois, voire quelques années, j'espère plutôt quelques mois, pour connaître la suite. Mais il y a une date importante, c'est 1980, et l'élection de Mitterrand. Vous n'êtes pas socialiste, vous n'étiez pas socialiste.
J'ai hésité, mais il y avait deux choses.
Vous n'étiez pas encarté.
Non, mais j'étais dans cette famille depuis les années Giscard, mais il y avait deux choses qui m'avaient empêché de, c'était peut-être naïf, d'aller jusqu'au socialisme, de m'inscrire. C'était l'idée de bannir la force de frappe. Ça me paraissait, vous savez, atomique, ça me paraissait sot et irréaliste.
Et ça n'a pas été fait, d'ailleurs.
Ça n'a pas, oui. Et puis, dans, l'idée d'en finir avec le capitalisme. Je suis de ceux qui pensent que le capitalisme doit être constamment bridé, canalisé, surplombé par l'État. Mais qu'enfin, on n'a jamais inventé autre chose que le marché pour, comme disait De Gaulle, permettre de se décarcasser, comme il a dit un jour à Perfit. Donc, mais enfin, on savait que j'étais dans cette mouvance, mais c'est probablement pourquoi Mitterrand, il a dit qu'il ne se mêlerait absolument pas des nominations, puisqu'on avait créé la haute autorité chargée de constituer un sas entre le pouvoir politique et les nominations, mais en même temps, quand même, il m'a reçu à deux reprises, tout en ne s'en mêlant pas.
Et j'y viens, évidemment, on va conclure cette émission avec ces deux entretiens. Mais il faut, Jean-Noël Jeannet, que vous nous expliquiez dans quelles conditions vous l'avez connu, François Mitterrand. Vous le racontez très bien dans ce livre.
Oui, le dernier chapitre s'appelle « Rue de Bièvre ». Le hasard avait fait que nous avions, ma femme de l'époque, acheté un appartement rue de Bièvre, tout près du 22 rue de Bièvre. Il n'y avait aucune intention politique. Une chance à saisir.
Là où habitait François Mitterrand.
Et donc, par une suite de hasards que je raconte, je me suis trouvé en effet dans la nuit du 10 au 11 mai, grâce à l'amitié d'une voisine qui m'est chère, conduit à l'intérieur de la maison de Mitterrand, dans la cour de Mitterrand. Je ne sais pas bien pourquoi, mais souvent la vie m'a permis d'être dans des endroits intéressants. En tout cas, là, je n'allais pas manquer cette chance, et j'en ai fait, je consacre quelques pages à l'impression que m'a donné François Mitterrand, tout juste élu et revenant des différentes manifestations qui avaient suivi son élection. On est au soir du 10 mai, au début de la nuit du 11 mai.
Avant donc votre nomination, il a voulu vous rencontrer. Il vous a rencontré deux fois.
Deux fois, oui.
Pour vous tester en quelque sorte, pour faire votre connaissance.
Oui, bien sûr, puisqu'il avait dit qu'il ne s'en mêlerait pas, mais il avait évidemment un droit de veto. Et la haute autorité, qui était présidée par l'admirable Michel Cotta à l'époque, et les huit autres penchaient en effet vers ma nomination, mais il avait voulu, je ne m'en mêlerai pas, mais enfin je m'en mêlerai quand même, puisqu'il y avait des hommes à lui qui auraient pu mettre un veto. Et vous savez, on passe des examens toute sa vie, je suis en train d'en passer un devant vous.
Non, minime, vous en avez vraiment passé de plus difficile.
mais enfin, donc j'ai passé un examen devant lui, et là aussi ça m'a amusé de raconter en détail la conversation, pour essayer de, ces deux conversations, pour essayer de faire de lui un portrait tel que je l'ai vu. Ce n'est pas un portrait définitif, je ne fais pas sa biographie, mais je dis, j'étais là, telle chose m'advint, je l'ai vu ainsi, et je vous offre ces souvenirs.
Je trouve ces deux rencontres intéressantes, parce qu'elles montrent, je ne sais pas si ce qui se passe aujourd'hui, les relations entre l'État et les sociétés audiovisuelles. On sent vraiment qu'il y a un examen à passer avant éventuellement d'être nommé.
Oui, j'avais été aussi invité par le ministre de la Communication, Georges Filiou, qui trouvait que j'étais vraiment pas assez militant. Mais c'est l'éternelle question. Néanmoins, il faut dire, pour être juste, qu'il y avait quand même beaucoup de progrès par rapport aux années antérieures, aux années de la 4e République, aux années gaulliennes, aux années même Giscard, où vraiment les sociétés de l'audiovisuel restaient beaucoup plus soumises à la domination directe du pouvoir politique. Il y avait un feu vert qui a été donné par Mitterrand, mais je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu la haute autorité, il aurait eu l'idée de me désigner pour Radio France, qui a été effectivement un des bonheurs de ma vie, et que je raconterai plus en détail.
Et pourquoi avez-vous voulu arrêter ce premier tome à cette nomination?
Parce que c'est le moment où j'entre.
Ça reste dans une responsabilité.
C'est la première fois que j'ai une responsabilité directe, et une très belle responsabilité, et que je pensais que j'avais assez de choses à raconter pour faire plusieurs tomes. Voilà, alors le voilà, vous l'avez sous les yeux, et vous le regardez avec une indulgence dont je vous sais gré.
Le Rocher de Sustane, c'est son titre, Mémoire 1942-1982. Merci infiniment, Jean-Noël.
Merci de votre accueil.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez aussi ce magazine sur notre site www.rfi.fr à la rubrique podcast. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche donc pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.